Les interviews métiers de l'Institut supérieur du droit. Aujourd'hui, je reçois Maître Cyriane Adjebi, avocate au barreau de Paris, qui va partager avec nous son parcours, son expérience et son quotidien en tant qu'avocate. Bonne écoute. Alors, bonjour Cyriane. Tout d'abord, merci de m'accorder cette interview qui, à n'en pas douter, permettra aux étudiants de l'Institut supérieur du droit d'avoir une idée un peu plus claire sur ce qu'est le quotidien en tant qu'avocat.
Bonjour Virginie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je l'accepte et j'aiderai, et j'espère que ça aidera les élèves de l'école à voir à peu près comment ça se passe, la profession d'avocat.
Très bien. Alors, je te propose de commencer par te présenter, donc me dire qui tu es, quel est ton parcours académique, professionnel, etc.
D'accord, alors je m'appelle Cyriane Adjebi, j'ai 34 ans. J'ai prêté serment auprès du barreau de Paris en octobre 2018. Donc, mon parcours universitaire, il débute par une licence en droit que j'ai préparée à Nanterre, Université Paris 10. J'ai fait quasiment tout mon parcours universitaire, donc de la licence jusqu'au master. J'ai obtenu un master en droit pénal et sciences criminelles. À l'issue de ce master, j'ai voulu préparer l'IEJ. Donc, pour intégrer l'école des avocats. Donc, je me suis inscrite à l'IEJ, sauf que je n'ai pas été reçue, je n'ai pas été admissible. Donc, je me suis dit que j'allais préparer un stage au sein de la cabinet d'avocats pour voir un peu plus comment ça se passait dans l'exercice de la profession et surtout avoir l'opportunité de travailler un peu plus mon style d'écriture et mon oralité. Donc, j'ai fait ce stage-là, mais je n'en suis pas sortie vraiment convaincue. Donc, à ce moment-là, j'ai plus ou moins renoncé à la profession et je me suis réorientée vers un parcours en criminologie. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai intégré l'Université Paris 8. J'ai préparé un DUSU, donc diplôme d'études supérieures universitaires en criminologie. Ensuite, j'ai intégré l'Institut de criminologie de Paris où j'ai préparé mes deux certificats de sciences criminelles et de sciences criminologiques. Et ensuite, j'ai préparé le DU. Le diplôme universitaire. Et c'est dans le cadre de cette formation-là, en fait, en criminologie, que j'ai rencontré en fait une autre élève qui, elle, était déjà avocate et qui m'a encouragée à reprendre ce chemin-là. Donc, j'ai intégré l'IEJ de Paris 2. Cette fois-ci, j'ai été reçue. Donc, c'est dans ce contexte-là, pardon, que j'ai intégré l'UFB, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et à l'issue de ce parcours, ben, j'ai prêté serment en 2018. Donc, à l'issue de l'obtention de mon CAPA, j'ai prêté serment dans le cabinet où j'exerce actuellement. Donc, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le même cabinet. C'est un cabinet généraliste, on est deux. Donc, il y a l'avocat associé et moi en tant que collaboratrice. Et donc, voilà.
Donc, tu nous disais, c'est un cabinet généraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dominante, vous traitez vraiment tout.
Alors, on traite vraiment de tout, effectivement. Après, c'est vrai qu'en termes de volume de dossier, il y a quand même un volume qui est quand même plus important en droit de la consommation et en droit commercial. Mais on traite également de dossiers en droit pénal. Et notamment, c'est moi qui, du coup, qui gère ce volet-là. On a des dossiers aussi en conseil de prud'homme, en droit du divorce. Voilà, on a vraiment un panel assez élargi. Donc, c'est pour ça que je parle de cabinet généraliste, parce qu'on touche vraiment à tout. Mais avec effectivement une certaine dominante en termes de volume de dossiers qui est plus importante en droit de la consommation et en droit commercial.
Quelles vont être tes principales missions au sein de ton cabinet?
Alors moi, en tant qu'avocat, parce qu'il faut savoir que qu'on soit avocat associé ou avocat collaborateur, au final, c'est juste le titre qui change, mais les fonctions en tant que telles, elles sont plus ou moins identiques. La seule chose que moi, je ne vais pas faire, c'est faire rentrer les dossiers au cabinet. En ce sens que c'est l'avocat associé qui va lui-même prendre les clients en rendez-vous auxquels je peux assister ou pas, mettre en place tout ce qui va être le financement, et après c'est moi qui vais récupérer le dossier et le traiter en tant que tel. Donc en termes de gestion, je vais assurer les audiences, je vais assurer le suivi des dossiers auprès des clients, que ce soit par téléphone, par mail, et s'il y a effectivement des clients qui demandent des rendez-vous au cabinet pour avoir à peu près une vision vraiment précise de leur dossier, la manière dont elle est traitée, l'avancée. Ça peut être moi comme l'avocat associé qui allons les recevoir.
Au sein de votre cabinet, est-ce que vous avez l'occasion d'interagir avec des juristes? Et si oui, comment et dans quel cadre?
Alors oui, ça nous arrive d'interagir avec des juristes, principalement dans les dossiers dans lesquels on va être entre... il va y avoir nous en partie, et la partie adverse sera une société notamment. C'est généralement dans les dossiers qu'on a en droit de la consommation et en droit commercial qu'on peut avoir pour contradicteurs des sociétés. Donc généralement, soit elles font appel à leur avocat attitré qu'ils ont en général, soit eux, dans leur gestion interne, vont avoir un juriste. Et ce sera lui qu'on aura comme interlocuteur. Donc, ça peut même arriver que dans le cadre d'audiences qui ont lieu devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce, qu'il n'y ait pas d'avocat qui se déplace à l'audience, mais que ce soit le juriste de la société qui, muni d'un pouvoir, va plaider le dossier, ou alors même dans le cadre des échanges d'écriture, va nous communiquer les conclusions qui ont été prises dans l'intérêt de la société. Et du coup, on interagit avec le juriste de la même manière qu'on va interagir avec un avocat.
D'accord, ce qui signifie que, contrairement à ce qu'on peut penser, un juriste n'est pas toujours derrière son ordinateur ou au bureau. Il peut se retrouver donc dans les prétoires et il doit savoir faire preuve d'une certaine éloquence et d'une certaine aisance à l'oral, du coup.
Ah oui, tout à fait, parce que là, pour le coup, lorsqu'on se place devant le magistrat, à partir du moment où on prend la responsabilité de défendre un dossier, on doit le faire de manière correcte. Donc moi, j'ai vraiment eu l'occasion de voir différents juristes dans le cadre de ces procédures-là que j'évoquais tout à l'heure. Et sincèrement, ils ont une maîtrise parfaite de leur dossier, ils ont une éloquence qui est très correcte. Et si on devait résumer ça de manière un peu profane, je dirais qu'il n'y a que la robe qui nous différencie, en fait. Juste eux, ils n'ont pas la robe. Nous, on l'a, et ça peut même arriver qu'ils aient vraiment une plaidoirie qui est excellente, vraiment excellente.
Quels sont vos principaux clients et quels sont leurs attendus dans votre relation de travail?
Alors, dans 80% des cas, même si c'est vrai qu'en termes de volume de dossiers, on a beaucoup de dossiers en droit de la consommation et en droit commercial, vu qu'il y a aussi d'autres dossiers, par exemple en conseil de prud'homme, en droit du divorce ou autre, en termes de pourcentage, je dirais qu'à 80% de notre clientèle, ce sont des personnes physiques. Et le 20% restant, ce sont des personnes morales. Donc après, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, elles ont globalement les mêmes attentes. Déjà qu'on suive leur dossier efficacement, qu'on obtienne gain de cause. Ils ne nous prennent pas pour qu'on perde leur dossier. Qu'il y ait un suivi effectif de leur dossier, donc, et qu'il y ait aussi une disponibilité. Donc c'est pas concevable qu'un client ait appelé plusieurs fois, par exemple, sur la journée pour pouvoir avoir une information concernant son dossier pour qu'on soit réactif. Et qu'on puisse leur montrer qu'ils ont bien fait d'avoir confiance en nous et qu'on traite leur dossier de manière vraiment très, très, très rigoureuse.
Alors, si il en existe, à quoi ressemblerait ta journée type?
Alors, une journée type, on va dire une journée classique dans laquelle il y aurait une audience, par exemple, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des audiences, même si c'est vrai qu'on en a souvent, il y a certaines périodes pendant lesquelles on a beaucoup d'audiences. Une journée type, ce serait, ben, j'arrive au cabinet, j'allume mes ordinateurs, je consulte les mails, parce que ce suivi-là des clients qui exigent. Là, maintenant, avec l'informatique, c'est rare que les clients appellent au téléphone pour avoir une information. Généralement, et c'est même nous ce qu'on préfère, on a tendance à communiquer par mail. Donc, ils vont envoyer un mail pour demander une question, savoir où est-ce que ça est dans leur dossier, savoir quel... qu'on puisse leur communiquer telle ou telle pièce, nous informer d'un événement aussi qui a pu intervenir depuis nos derniers échanges. Donc, je vais traiter les mails et ensuite, je vais essayer, en fonction de l'urgence des dossiers, par exemple, s'il y a une audience qui est proche et qu'il faut que je rédige des conclusions dedans, je ferai ce dossier-là en premier. Si je sais qu'il y a un client qui est très, très, très demandant, et que ça fait un petit moment déjà qu'il m'a demandé une pièce qu'il n'a pas encore reçue, lui communiquer. Donc voilà, c'est vraiment en termes de calendrier. Moi, je fonctionne avec deux choses, c'est mon agenda et du coup, les mails et mes dossiers.
Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier?
Alors moi, ce que j'aime vraiment le plus, c'est la partie défense. Le fait, même si c'est très fatigant parfois, même si ça peut prendre beaucoup de temps sur une journée, ça génère aussi beaucoup de stress parce que parfois, il y a des clients qui se déplacent à l'audience, Moi, ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est vraiment tout ce qui est partie défense, le fait d'aller au tribunal, de plaider des dossiers, d'interagir avec les confrères, qui est cette petite guéguerre à la barre, même si c'est ça peut paraître assez vigoureux et assez brutal à l'audience, on sait très bien qu'on est tous les deux là pour défendre notre dossier. Et donc, du coup, c'est de bonne guerre, on va dire. Lorsqu'on est devant le magistrat, c'est la gagne, on est là pour gagner, on oublie la confraternité, on oublie entre guillemets, hein. Mais je veux dire, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est aussi cet esprit où même si on se fait la guerre devant le magistrat, dès qu'on sort de la salle d'audience, ben, on se serre la main, on rigole, on se félicite. Voilà, c'est aussi le fait de ne pas être tout le temps au bureau et d'avoir cette possibilité de sortir et d'aller dans différentes juridictions.
Tout à l'heure, tu nous disais que finalement, en tout cas au sein d'un cabinet, le fait d'être collaborateur ou associé ne changeait pas grand-chose. Mais dans l'organisation de ton temps de travail, de ta vie personnelle comme professionnelle, est-ce qu'il y a une différence dans le fait d'être collaborateur et non pas associé?
Alors non, parce que ça, c'est quelque chose aussi. Merci beaucoup de revenir sur ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est collaborateur libéral. Donc la partie libérale, il faut aussi la garder à l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas forcément lorsqu'on est à l'école, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément à l'entretien, c'est quelque chose qu'il faut que toi-même tu intègres et que tu imposes plus ou moins dans ton cabinet. En tant que collaborateur libéral, on n'a pas d'horaire de travail, contrairement à un salarié. Donc, si je veux commencer ma journée à 10h et la finir à 22h, c'est mon droit. Après, c'est vrai que dans la pratique, il y a des horaires qui sont plus ou moins classiques de cabinet, donc c'est du 9h, 19h. Si on arrive un peu avant, on ne va jamais rien vous dire. Si on arrive un peu après, ça peut poser problème. Mais il faut en fait savoir que ce soit l'avocat associé ou l'avocat collaborateur, la même mission, c'est de gérer le dossier en fait. Il faut que le dossier soit prêt en temps et en heure. C'est vrai qu'il y a quand même aussi ce devoir de rendre des comptes à l'avocat associé. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est son nom à lui qui sera toujours mentionné sur les conclusions, qui sera mentionné sur le jugement. Donc, c'est sa responsabilité professionnelle à lui qui est mise en cause. Donc, il y a quand même une confiance qui doit exister entre l'avocat collaborateur et l'avocat associé dans la gestion des dossiers. Donc, on rend des comptes à l'avocat associé. Ben voilà, tiens, les conclusions que j'ai prises dans tel dossier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que je modifie telle ou telle chose? Mais globalement, en termes de gestion de son travail, il y a une totale liberté. Il y a une réelle liberté. En tout cas, moi, dans l'exercice que j'ai de ma profession, j'ai une totale liberté tant que le travail est fait.
Au sein de ton cabinet, est-ce qu'il vous est arrivé ou est-ce qu'il vous arrive d'accueillir des stagiaires? Et si oui, qu'est-ce que vous attendez de ces stagiaires et quels sont pour vous les critères de recrutement d'ailleurs de ces stagiaires?
Alors là, ça va dépendre du grade. Par exemple, on peut très bien prendre un stagiaire en troisième année de droit, un stagiaire qui va plutôt être en troisième du collège, par exemple, ou alors un stagiaire élève avocat. Donc là, pour les trois niveaux que je viens de citer, bien sûr, il faut être cohérent aussi avec les capacités du stagiaire. On ne demandera pas la même chose à un stagiaire qui est en troisième qu'un stagiaire qui est en troisième année de droit, qu'un stagiaire qui est élève avocat. Par exemple, un stagiaire qui va être en troisième, on en a déjà eu, on va leur demander surtout de faire des missions d'archivage, de tenir un peu l'agenda. Et là, ce sera surtout eux qui auront la satisfaction de pouvoir nous accompagner en audience, on leur montre à peu près comment ça se passe. Il y a un peu plus de terrain. Alors que pour un stagiaire qui va être en troisième année, donc ça aussi, on en a déjà eu, là, généralement, il y a moins de disponibilité. Pourquoi? Parce que le stagiaire qui sera en troisième année, en troisième collège, lui, il sera présent sur, on va dire, une semaine, 10 jours. Donc, c'est son collège qui va lui dire, bon, ben voilà, tu as un stage de 10 jours à effectuer. Donc, il sera là tous les jours. Alors qu'un stagiaire qui sera en troisième, il a généralement aussi cours en parallèle. Donc, il sera là de manière assez épisodique, même s'il y aura un planning qui sera défini. Donc, il sera là peut-être tous les lundis, les mercredis et les jeudis. En fait, il ne sera pas là tous les jours, mais on sait qu'il est là régulièrement, sur une période qui est beaucoup plus longue. Donc, lui, à ce stagiaire-là, qui est en troisième année de droit et qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances juridiques aussi, hein, parce que pour arriver à la profession d'avocat, il faut avoir un minimum un master, tout en sachant qu'après, il y a les stages, qu'après, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup plus de matières qui seront acquises qu'en sortant de l'école de manière sèche avec une licence. Donc, ce stagiaire-là, on lui demandera de rédiger des actes, de manière assez, plutôt des projets d'actes qu'on pourra revoir ensemble, également de tenir la gestion de l'agenda et d'effectuer seul différentes démarches au palais, d'aller relever la TOC, d'aller demander des certificats, d'aller déposer des dossiers de plaidoirie. Donc, il sera déjà plus en autonomie que le stagiaire troisième, mais il aura beaucoup moins de tâches que celui qui sera élève avocat. Donc, le stagiaire élève avocat, lui, on part du principe qu'il a fini tout son cursus universitaire, entre guillemets, qu'il a fini aussi son cursus à l'EFB et que du coup, c'est les derniers stages de CIMAC qu'il reste à faire. Donc, on est dans une projection, il pourrait même intégrer le cabinet en tant que collaborateur. Donc, lui, clairement, il fera exactement la même chose que moi, sauf qu'il n'aura pas la robe. Et que pour pouvoir aller plaider certains dossiers, il faudra qu'il soit accompagné à côté d'un avocat qui lui a déjà prêté sa main.
Dehors du cadre étudiant de troisième année, mm-hmm. ou élève avocat, tu as aussi l'intermédiaire entre un étudiant qui serait en M1 et un étudiant de M2, mais qui ne serait pas élève avocat. Comment ils sont intégrés dans ton cabinet ?
De la même manière, en fait, qu'un stagiaire L3, au final. Parce que il n'y a absolument aucune différence, que ce soit de la L1 jusqu'au M2, ils sont intégrés de la même manière. En fait, c'était vraiment pour parler de l'élève avocat qui, lui, va nourrir beaucoup plus d'attentes quant à son travail qu'un étudiant de première ou jusqu'au M2. Hein. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça.
Et donc, en termes de mission, il y a de la rédaction d'actes, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très important. Oui, c'est très important. Dans ton cabinet, en tout cas, ou plus généralement, si tu as l'occasion, si tu connais la réponse, est-ce qu'il y a vraiment cette implication pleine dans la rédaction d'actes, ou est-ce qu'on se contente de petites consultations, ou est-ce qu'ils peuvent aller vraiment sur des actes tels qu'on les connaît dans les dossiers, à savoir, vous faites du commercial, donc c'est un petit peu différent, mais peut-être des conclusions, des assignations, laisser aller jusque-là?
Oui, parce que de toute façon, après nous aussi, la réalité de la gestion d'un cabinet, c'est que on ne va pas s'en plaindre, hein, mais parfois, il y a des cabinets, il y a énormément de dossiers. Il y a énormément de dossiers, donc à un ou deux avocats, parfois, on ne s'en sort pas. Et ça peut être intéressant, en fait, d'avoir cette béquille que sera le stagiaire pour pouvoir nous venir en aide. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on va bien sûr demander de rédiger des actes, ce sont des projets. Donc, on va dire, écoute, là, tu as le squelette, essaie de compléter, mettre de la matière, on revoit ensemble, et après, à la rigueur, l'avocat qui sera en charge du dossier validera. Mais il faut vraiment qu'en amont, les stagiaires aient fait au moins 60% du travail et que lui, il ne reste plus que 40% à faire. Donc, puis, en tout cas, moi, je sais que les stagiaires qu'on a eu, on a eu deux, une qui était en deuxième année et une autre qui était en M1, mais elle avait beaucoup de mal à gérer avec son emploi du temps. On leur demandait de rédiger des assignations, leur expliquer à peu près le topo, voilà, dans le dossier, il y a ça. On a du matériel à disposition, tu as des accès à des sites Nexis, tu as des codes qui sont à ta disposition. Ce métier-là que tu veux faire plus tard, tu peux commencer dès maintenant à te préparer, quoi.
D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Et pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon juriste et un très bon ou excellent juriste?
Alors, moi, pour le coup, ce qui fait la... En tout cas, dans le cadre juste du travail juridique, pour moi, ce qui fait un bon professionnel du droit, un bon et un moins bon, ce sera vraiment la veille juridique. En fait. Un juriste, pour moi, qui sera excellent, c'est un jury qui fait vraiment une réelle veille juridique, qui est au courant des dernières actualités, qui sait déjà le sujet qu'il aborde, qui maîtrise sa matière et qui a un discours qui est cohérent, qui ne va pas, par exemple, nous citer une jurisprudence qui date de 96, alors qu'entre-temps, il y a un revirement qui a eu lieu. Donc, que ce soit en tant que juriste ou même en tant qu'avocat, ce n'est pas tant l'éloquence qui va porter, c'est vraiment la matière. Qu'est-ce que tu dis concrètement, de quoi tu parles? Si toi, ton dossier, tu parles très bien, mais ce que tu dis, au final, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, ça n'a absolument aucune valeur. Donc, moi, quand je te parlais tout à l'heure des juristes avec lesquels on interagit, parfois, on a des juristes qui nous envoient des conclusions, on a peur, on se dit « Ah ouais, alors lui, il est vraiment au point, et ça nous met la pression, donc c'est une pression qui est agréable, mais quand on voit que la personne en face elle maîtrise très très bien sa matière, c'est parfait en fait, parce que ça donne du challenge, et c'est, tu vois aussi la qualité du travail de la personne qui est en face. Un excellent jury, ce sera, je pense, en termes de professionnalisation, une personne qui va être déjà, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, qui a une veille juridique et qui est aussi disponible. Après ça, c'est vraiment pour n'importe quel professionnel qui a une disponibilité, qui fait preuve de patience, qui a un travail de rigueur. La rigueur, c'est très important. Rigueur dans la recherche, rigueur dans la rédaction, rigueur dans l'investissement qu'on apporte à son dossier. Et voilà, une disponibilité, une aisance relationnelle parce que. Généralement, que ce soit, même si c'est vrai qu'on aura, si on devait comparer un juriste à l'avocat, on dirait que ce serait plus un avocat qui fait plus du conseil, donc qui va être plus derrière son bureau, qui aura plus tendance à avoir des interactions par mail ou par téléphone, tout en sachant qu'il y a aussi ce côté défense-là qui est parfaitement possible, puisque moi-même je le vois dans le cadre de ma profession. Mais voilà, une disponibilité pour le confrère, pour le client, pour l'employeur, une disponibilité.
En termes de compétences extra-juridiques que doit posséder un juriste, est-ce que tu peux nous éclairer sur ta façon de voir les choses sur ce point-là?
Alors moi, les compétences extra-juridiques, ben, ce sera, voilà, comme je disais tout à l'heure, un sens de l'écoute, un sens de l'écoute, beaucoup de la rigueur et aussi vraiment un travail de veille, un travail de veille juridique, un travail de recherche minutieux voilà, des capacités rédactionnelles, ça c'est indéniable, hein, ça c'est pas possible autrement. Un travail d'écoute aussi, de savoir vivre, parce que c'est vrai que même si nous, en tant qu'avocats, on appartient à une sorte de petite confrérie, voilà, on a le principe de confraternité, on appartient à tous à un barreau différent. Donc, on a cette robe, parfois, ça nous permet aussi un peu de nous rassembler. Voilà. On aura tendance à prendre un juriste pour un civil, alors qu'eux aussi, à partir du moment où ils sont intervenants juridiques, ils doivent avoir cette même prestance, ils doivent avoir ces mêmes qualités qu'on attend d'un avocat. Ce n'est pas la robe qui doit faire la différence, c'est vraiment ce qu'on attend de nous. Donc moi, je dirais qu'un excellent juriste, un bon juriste, ce serait une personne qui a conscience de ce qu'on attend d'elle, qui a conscience de la qualité du travail qu'on attend d'elle et qui en fait honneur, en fait, qui est à la hauteur de ce qu'on attend.
Moi, je voudrais quand même revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as une formation essentiellement pénaliste au départ. Et pourtant, aujourd'hui, tu exerces dans des domaines divers et variés. Est-ce que finalement, les compétences que tu as eues en plus, c'est les compétences que tu as apprises sur le terrain, ou finalement, tu t'es servi de ton parcours, tu les avais avant? Comment ça se passe? Comment tu as acquis cette polyvalence finalement?
Alors, sincèrement, moi, j'ai réalisé une chose quand je suis rentrée dans la profession, c'est qu'il y a vraiment un gap entre la pratique et la théorie. Vraiment, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est 60%, même pas 40%, je pourrais même dire 40% de ce qui va vraiment se passer dans ta vie professionnelle. Parce qu'après, la réalité du métier aussi, elle veut que pour pouvoir tenir ton cabinet, tu ne peux pas te contenter d'avoir un seul domaine de compétences. Après, il y a des cabinets pénalistes qui, eux, sont, voilà, ils ont une certaine notoriété, ils sont très connus, donc eux, ils ne vivent que de ça. Mais la réalité aussi de factuelle telle qu'elle est, c'est qu'il y a des charges à payer, c'est qu'il y a un loyer à payer. Donc, il faut faire rentrer les dossiers, en fait. Donc, moi, quand j'en suis arrivée à postuler dans ce cabinet dans lequel j'exerce actuellement, c'est vrai que moi, j'espérais faire un petit peu de pénal. Moi, quand je suis sortie de l'école, mon souhait premier, c'était forcément d'intégrer un cabinet pénaliste. De toute façon, je ne savais faire que ça. Donc, je me serais sentie complètement inutile en étant dans un autre cabinet. Donc, les choses ont fait que je n'ai pas forcément réussi à intégrer un cabinet pénaliste. Donc, j'ai intégré le cabinet dans lequel je suis actuellement. Et j'arrive quand même, malgré tout, à avoir des dossiers en pénal, des dossiers personnels que j'entends même, des dossiers que l'avocat associé, comme il sait que c'est ce que j'aime aussi, ben, il va faire rentrer aussi au sein du cabinet. Et après, pour revenir à tout ce qui est partie droit de la consommation et droit commercial, ça, c'est principalement du droit civil. Donc, c'est vraiment une matière que j'ai appris maximum en licence. Après, j'ai laissé ça derrière moi. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut avoir une veille. C'est pour ça que je parlais de veille juridique, c'est qu'il faut te mettre à jour. Tu es obligé de te mettre à jour, tu es obligé de lire la Gazette du Palais, tu es obligé de remettre ton nez dans le code, tu es obligé de regarder la jurisprudence qui est actuellement en vigueur. Donc, je ne vais pas te mentir, au début, c'était très, très, très difficile. Je ne me sentais pas forcément à la hauteur. J'étais très stressée aussi parce que tu sais qu'il y a une attente derrière, qu'il y a des enjeux derrière, que tu as des clients qui sont endettés, tu as des clients qui attendent que tu gagnes leur dossier. Et quand tu sens que toi, juridiquement, tu n'es pas à jour, ça t'angoisse. Donc voilà, il faut avoir aussi ce désir du travail bien fait. Il faut avoir aussi cette envie d'obtenir gain de cause et de satisfaire la personne qui te donne sa confiance. Donc, ça a été très compliqué, mais voilà, au fur et à mesure, c'est sur des procédures qui sont assez régulières. Ça fait peur, mais une fois que tu as mis le nez dedans, ben, tu te réalises, tu as des automatismes qui reviennent et ça devient un peu plus facile chaque jour.
Alors moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que souvent les étudiants de l'ISD, donc comme nous, on a pu le faire, ont une matière de prédilection ou en tout cas un domaine, et bien souvent ont un petit peu peur de ce qui pourrait les attendre dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Donc là, si j'entends ce que tu dis, c'est que finalement, avoir peur, c'est légitime, mais que finalement, déjà, en assurant cette veille, en n'ayant pas peur d'aller sur d'autres matières et en se faisant un petit peu conscience, le fait de ne pas être spécialiste dans un domaine n'empêche pas à 100%, en tout cas, la pratique du droit
Absolument.
dans ce domaine-là. Il faut juste finalement accepter ce caractère polyvalent et faire preuve de curiosité, si je comprends bien.
C'est ça, et au final, je trouve que c'est même mieux de ne pas se limiter à une seule matière. Parce que moi aussi, c'est vrai que cette matière qui me fait vibrer, que j'aime plus que tout, c'est le droit pénal. Mais au final, je réalise que mes qualités professionnelles, je peux aussi les mettre en valeur et au service de d'autres matières. Donc, ce qu'il faut aimer avant tout, c'est le droit. Après, on peut toujours avoir une préférence pour une matière, mais c'est vraiment se fermer beaucoup de portes que de ne se limiter qu'à cette seule matière. Et après, demain, si par exemple, il y a une connaissance ou une personne qui vient vous solliciter pour demander un conseil, bah, c'est regrettable en fait un peu de se retrouver à être là. Bah, écoutez, je ne sais pas, je ne sais faire que ça. Donc, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé mes études de droit, je me suis dit, bah, moi, plus tard, je voudrais faire que du droit pénal. Mais au final, je trouve que c'est quand même mieux d'en faire, mais de faire aussi d'autres matières à côté.
Ok. Et enfin, pour finir, quel est le conseil que tu donnerais à un tout jeune juriste?
Bah déjà de croire en lui, hein. Faut vraiment croire en soi. Parce qu'on peut être ébranlé sur beaucoup de choses lorsqu'on perd des dossiers, lorsqu'on fait des erreurs dans certaines procédures. Croire en soi, croire en ses capacités, se dire que si on en est arrivé jusque-là, parce qu'on n'est pas plus bête que l'autre. Et voilà, ne pas se laisser démoraliser. Parfois, on peut tomber. Moi, c'est la chance que j'ai. Je suis tombée sur un patron qui est adorable. Franchement, on s'entend très, très bien, qui est très à l'écoute, qui a beaucoup de bienveillance. Mais après, le monde du travail, ce n'est pas toujours ça. Donc voilà, s'aguerrir, s'armer de patience, de beaucoup de courage. Et voilà, de croire en soi et en sa valeur.
Ben écoute, un grand, grand merci Cyriane pour cette
Bah, de
interview.
rien, de rien.
Et ben, merci d'avoir partagé cette expérience, ton expérience avec les étudiants de l'Institut supérieur du droit.
Avec plaisir.